Si vous écoutez ce message ou que vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes taré, du moins autant que nous, parce qu'on est samedi, vous devriez être en train de faire tout un tas d'activités et au lieu de ça, vous avez envie d'entendre encore parler de basket, de poser des questions, peut-être même d'avoir des réponses si Chai et moi sommes suffisamment qualifiés pour y apporter notre input. C'est le CQFR du samedi. Voilà, on est avec Chai, on va répondre à toutes les questions, du moins au maximum de questions possibles de ce que vous nous avez envoyé. Que dire de plus ? Si on change un petit peu la règle du jeu, cette fois-ci c'est Chai qui va poser les questions, donc c'est moi qui serai en aveugle.
Ouais. Bah on s'est dit qu'on allait un peu changer l'ordre établi, on est des petits fous chez Basket Session Reverse. Antoine, qu'on embrasse bien fort n'étant pas là, on s'est dit que c'était peut-être le moment de proposer à Théo d'avoir ce petit plaisir d'écouter les questions et les compliments sans les connaître à l'avance. Du coup, effectivement, c'est moi qui ai sélectionné les questions pour aujourd'hui, pour ce CQFR du samedi.
Je sens que je vais moins faire le malin que les semaines précédentes.
est-ce que t'es excité, stressé, impatient d'en finir et de partir en week-end ?
J'ai une pression de ouf, tu sais, c'est un peu comme les fois où j'ai eu la chance d'être invité chez les copains de First Team, j'oublie à la fin qu'à chaque fois il y a le quiz.
Et le quiz,
c'est vraiment pas le moment où je me sens le plus à l'aise, le plus dans mon élément, donc bon, je vais essayer de faire bonne figure.
Là ça va, il n'y a pas de quiz aujourd'hui, c'est juste...
Voilà. Très bien.
avant de lire la première question, peut-être petit rappel promo des programmes dispo sur notre chaîne YouTube cette semaine et sur le média dans son ensemble. On a le CQFR chaque matin, le podcast du lundi qui est toujours dispo, celui qu'on a fait avec toi Théo sur la thématique Kyrie Irving, James Harden. On a l'interview avec Judaichi sur les animés de basket et la génération animée en NBA. Le replay de la late session. Le Hoop Culture de dimanche dernier avec Pierre Armand et toi. Pierre Armand survolté sur l'épisode sur les sneakers et j'imagine, mais je n'ai pas encore l'information, mais survolté également sur l'épisode de dimanche que vous pourrez donc retrouver demain. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Basket Session pour découvrir la nouvelle version du site, pour partager vos avis, vos commentaires, vos opinions. Voilà, tout y est fait pour passer un bon moment, donc n'hésitez pas. Bon, on va passer à la première question, si t'es prêt, Théo.
Vas-y, je suis chaud. Chaud bouillon.
T'es chaud ? Ok. Alors, notre première question nous vient de Munich, et c'est pas Antoine Pimel, c'est d'Erwan, qui est un de nos fidèles auditeurs. Erwan qui nous demande... Donc, il y a quelques semaines, Luka Doncic parlait des différences dans le jeu entre la NBA et l'Europe. Il comparait notamment l'utilisation de systèmes sur chaque possession en Europe, avec un, voire même plusieurs appels à chaque fois, et il semblait dire que c'était loin d'être le cas en NBA. Pour moi, qui ne suis ni expert ni fin tacticien du basket, je me demande quelle est la part du coaching et de l'efficacité des systèmes en NBA. Voyez-vous des équipes plus fortes tactiquement, avec un répertoire de systèmes à la fois plus étoffé et appliqué, cela peut être en défense ou en attaque ? Et je suis content que tu sois là, Théo, pour répondre à celle-là, parce que c'est un peu moins dans mes cordes, j'ai l'impression.
Non, je voudrais pas faire dans les clichés, mais j'ai effectivement le sentiment qu'en NBA, il y a une part plus libre, dans le sens où la décision est plus aux mains des joueurs. En fait, souvent, j'ai l'impression que parfois, une des différences, c'est que dans le basket FIBA à très haut niveau, l'objectif du système, ça va être d'aboutir à un tir le plus ouvert possible, sachant qu'au très haut niveau de l'Euroleague, la notion de ouvert ou de démarrer, est vraiment ténue, hein, ça va se jouer à quelques secondes ou parfois millisecondes. Alors qu'en NBA, j'ai l'impression qu'il y a encore toujours cet objectif avant tout de mettre la main mettre le ballon dans les mains du meilleur joueur ou du joueur qu'on veut décisionnaire sur la fin de possession. Alors bien sûr, ça c'est une généralité, hein. Il y a des tas de situations où c'est pas le cas. Mais effectivement, je pense que en Euroleague, le niveau tactique est vraiment hyper développé aussi parce que c'est une ligue plus réduite que la NBA au bout du compte. Ouais. C'est pas pour dire que si tu prends l'élite de la NBA, je pense que les techniciens, les tacticiens, les staffs sont tout aussi compétents que ceux d'Euroleague. Parfois, il peut y avoir des séquences vraiment hyper complexes, mais c'est vrai que plus tu descends quand même dans le classement, globalement, plus les formes de jeu sont simples parce que voilà, les joueurs aussi n'ont pas forcément le même bagage tactique, notamment. Si tu prends une équipe comme Houston, finalement, qui fait une bonne saison cette année, qui a vraiment passé un cap, les joueurs sont très très jeunes. Ils ont finalement peu de vécu au très haut niveau. Alors qu'en Euroleague, si tu prends les meilleures équipes d'Euroleague, allez regarder les rosters de l'équipe du Real ou du Barça, par exemple, vous allez voir que c'est blindé de vétérans, jouent au plus haut niveau depuis des années, qui ont vu toutes les formes de jeu, donc qui ont aussi une capacité, je pense, à mettre en place des choses plus complexes que certaines équipes NBA.
Ouais, c'est clair. Et puis sur la partie de la question, sur est-ce qu'on voit des équipes qui ont plus de systèmes, plus de réflexion tactique, moi du coup je suis comme toi Erwan, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un grand tacticien, ou en tout cas je ne suis pas un analyste de la tactique. Moi je pars du principe que si de ma position de gars qui n'y connaît pas, qui s'y connaît pas énormément, j'arrive à voir un peu ce qui se passe et à voir la patte d'un entraîneur sur la façon de jouer, si je comprends un peu ce qui se passe, et que ce n'est pas une succession de jeux en iso et d'exploits individuels. Ou voilà. Bah, à partir de là, c'est une équipe qui, à mon sens, est imprégnée de tactique, de la tactique prônée par un coach. On parle souvent de Miami avec Théo, avec Spoelstra. J'arrive à voir un peu les adaptations de jeu sans forcément parfois toujours tout comprendre, et j'ai besoin qu'on me l'explique. Mais je vois les adaptations, je vois un peu ce qui a été tenté, alors qu'il y a des équipes sans cibler forcément un coach. Hein, parfois, c'est aussi... Que le coach fait en fonction de son effectif, et il sait qu'avec tel ou tel joueur, c'est compliqué de mettre tel ou tel système en place. Mais ouais, il y a des équipes pour moi, et Miami en fait partie. Houston, dont tu parlais, on voit la différence. Je veux dire, on a vu 2 ou 3 ans de Stephen Silas, qui n'est pas un mauvais coach au demeurant, il a des qualités. Et puis tu vois Ime Udoka qui arrive, et c'est pas du tout la même façon de jouer, alors que les joueurs sont globalement les mêmes. Donc là, pour moi, oui, il y a des équipes qui sont plus imprégnées de tactique, ouais.
Ouais, c'est clair. Et puis après, voilà, faut aussi bien se rendre compte qu'en Euroleague, c'est plus non plus les années 90 où on était sur des systèmes très fermés. Là, on reste malgré tout sur des principes de jeu. Et en fait, moi, ce que je trouve impressionnant, je pense que la plus grosse différence, ou du moins l'une des plus grosses différences vraiment entre le basket FIBA et le basket NBA, outre la durée des matchs, tout simplement, parce qu'en fait, 4 cartons de 12 minutes ou 4 cartons de 10 minutes, ça fait une grosse différence au bout du compte, c'est le nombre de temps morts, en fait, à disposition pour les entraîneurs. Et en Euroleague, tu as besoin. Enfin, t'es forcé, vu que tu n'as que 5 temps morts pour ton match, tu as besoin que tes joueurs connaissent tout sur le bout des doigts et puissent s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est vraiment impressionnant et ce qui est kiffant dans le jeu EuroLeague et dans le dans le jeu de très haut niveau FIBA, c'est de voir justement la capacité qu'ont les joueurs à s'adapter en temps réel par eux-mêmes, à passer d'une option à une autre. Alors, il y a des principes de jeu, parfois il y a des systèmes fermés, mais en fait, tu vois aussi que ils sont beaucoup plus en lecture que ça n'a pu être le cas par le passé. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu. C'est ce que tu retrouves aussi au très haut niveau NBA. Hein. Je ne suis pas là pour dire que c'est plus technique ou plus tactique en Euroleague systématiquement. Mais moi, c'est le kiff que j'ai. Enfin, ce que je trouve kiffant dans le basket Euroleague, dans le basket FIBA, c'est que je pense que les joueurs sont obligés. Tu ne peux pas avoir un mec qui va rien comprendre sur le terrain. Alors, si tu veux gagner un titre NBA, tu ne peux pas avoir un mec qui comprend rien sur le terrain non plus. Mais je veux dire, c'est que. T'as pas simplement besoin que le meneur annonce le bon système, t'as besoin que les 5 joueurs sur le terrain soient capables de s'adapter, de passer d'une option à une autre, en fonction de ce que propose la défense, en fonction aussi parfois des changements défensifs que propose la défense. Et c'est pour ça que moi je m'éclate à regarder le hit et que je suis fan d'Eric Spoelstra, c'est notamment sur les aspects défensifs, de voir que au cours du même match, ils vont proposer tout un tas d'options différentes à l'équipe adverse et du coup les garder toujours un petit peu sur la brèche. Il y a pas mal d'équipes européennes qui font ça à merveille.
Ça me fait ça avec Orlando un peu. Alors, c'est peut-être parce que je suis biaisé, mais je trouve que Jamal Mosley, qui a été aussi un temps un peu spécialiste défensif, j'arrive à voir les différentes approches. Et voilà, à partir du moment où c'est où le grand public, entre guillemets, je dis pas que je suis forcément grand public à mort, mais comprend un peu ce qui se passe et voit des différences d'un coach à l'autre, c'est quand même qu'il y a. Voilà, il y a une vraie réflexion derrière. Et alors, on peut du coup enchaîner avec une question qui est toujours un peu sur le côté tactique. Une question qui nous vient de Thomas et qui nous dit: Bonjour la team, en voyant le fond de jeu, pardon, inexistant des Suns et les difficultés en attaque du Magic, alors je pense que la question avait été envoyée avant le Game 3, sur les 2 premiers matchs, une question me vient. Pour les équipes bâties sur des joueurs capables de créer offensivement mais sans vrai meneur organisateur, est-ce que remettre au goût du jour l'attaque en triangle ne serait pas une bonne solution pour amener du mouvement de balle? Merci pour toutes vos émissions, c'est un vrai plaisir de vous écouter tous les jours.
Alors c'est une question complexe, hein. C'est
Ouais,
pas facile
parce que
de.
l'attaque en triangle, elle a été jugée désuète les dernières fois où elle a été vraiment employée, quoi. Les dernières années où Phil Jackson était président et avait convaincu plus ou moins en bon marionnettiste Derek Fisher d'insister là-dessus, ça n'a pas été un franc succès. Après, la réflexion n'est peut-être pas dénuée d'intérêt.
En fait, le problème de l'attaque en triangle, parce qu'en fait, on retrouve certains principes de l'attaque en triangle dans tout un tas d'attaques modernes, en fait. C'est juste qu'elle est plus jouée exactement de la même manière que ça a pu être le cas avec les Bulls de Jordan ou les Lakers avec Kobe et compagnie. La question de l'attaque en triangle et la raison principale pour laquelle ça n'a pas marché à New York, c'est qu'il n'y avait pas l'équipe pour jouer ce style de jeu, en fait, tout
Le
simplement.
personnel, ouais.
Il faut le. Je veux dire, tu peux pas jouer l'attaquant très haut avec Carmelo Anthony. Ça veut pas dire que Carmelo Anthony est pas un bon joueur. C'est clairement un très fort attaquant. Simplement, il aurait fallu qu'il révolutionne complètement son jeu pour que ça fitte avec, avec l'attaque en triangle. Dans le problème, alors, en ce qui concerne principalement Phoenix, pour le coup, c'est vrai que tout au long de l'année, plusieurs fois, j'ai vu, oui, mais ils n'ont pas de vrai meneur, il faut un vrai meneur. Mais en fait, c'est quoi un vrai meneur? Parce que c'est ça la question aussi. Tu peux avoir... Déjà, regarde, si je te pose la question, Shai, si je te dis aujourd'hui, donne-moi un vrai meneur qui joue actuellement en NBA, qui tu vas me sortir? Tu as la définition de meneur pur.
C'est super dur parce que moi, quand si j'entends vrai meneur, meneur pur, j'ai une définition un peu à l'ancienne. J'ai l'impression qu'on parle d'un général de terrain, vraiment juste très organisateur et concentré sur la passe et la circulation du ballon. Alors qu'aujourd'hui, la NBA fonctionne avec des combo guards, des profils plus modernes. Donc, est-ce qu'un joueur en particulier, moi j'aime bien, pour moi, ce qui ressemble le plus à des meneurs à l'ancienne, c'est des types comme, et je ne sais pas si c'est valable, mais tu vois, un Tyus Jones qui fait beaucoup de passes et très peu de pertes de balles, qui est concentré sur la passe et assez peu intéressé par le scoring. Voilà ce que je dirais d'un vrai meneur, mais est-ce que ça a de la valeur?
Mais c'est exactement, tu vois, moi je t'aurais dit Chris Paul, Tyus
oui,
Jones,
voilà,
et sachant que Chris Paul, une des raisons pour lesquelles, c'est aussi parce qu'il est moins efficace en attaque offensivement que son impact diminue. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de vrais meneurs en fait. Si tu regardes tous les top meneurs, ce sont en gros, c'est des deuxième arrière scoreurs ouais. qui peuvent gérer le jeu et créer pour les autres. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander n'est pas du tout un meneur classique, du moins au sens qu'on a connu. Donc je ne sais pas en fait si le fait qu'il y a un vrai meneur entre guillemets aurait sauvé, tu vois, si tu mets Tyus Jones aux Suns, je suis pas sûr que ça résolve vraiment leurs problèmes dans le jeu. Je pense que pour le coup de Phoenix, il y a deux choses vraiment. L'une que tu avais bien vu venir l'an dernier, en fait, la saison précédente, quand tu disais ils ont pas assez de vécu pour que ça aille au bout. Quand il y avait juste après le trade de Kevin Durant, je sais qu'on en avait parlé à plusieurs reprises, Charles, c'était ton gros. Voilà l'un de tes arguments qui se tenait complètement. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus vrai cette année, parce que même s'ils avaient leurs trois joueurs dès le début de l'année, enfin au début de la saison, finalement ils ont quasiment jamais eu ensemble tout au long de l'année en fonction des blessures des uns et des autres. Et là, il y a non seulement il n'y a pas assez de fond de jeu, en fait, d'habitude de jeu collective, du coup il n'y a pas une vraie hiérarchie qui s'est instaurée comme ça avait pu être le cas par le passé. Et en plus, j'en reviens à voilà ce qui, je pense que KD en fait a plus le niveau suffisant pour que cette équipe des Suns puisse rayonner, parce qu'en fait, pour pouvoir associer Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, les Suns ont dû se priver de tout un tas de role-players de qualité, en fait.
Ouais.
Mais ce qui veut dire que maintenant, pour que ça fonctionne, il faut que les stars jouent leur rôle de star et jouent aussi, en partie, le rôle des role-players qui étaient là pour apporter la qualité autour. Et je pense pas que ces trois joueurs-là, du moins avec KD actuellement, je pense pas que ça suffise.
Ouais. Et alors, pour le côté, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un meneur avec ce profil-là? Je pense qu'il y a peut-être plus besoin d'avoir, en tant que titulaire indéboulonnable à la John Stockton, un meneur gestionnaire. Par contre, avoir un ou plusieurs mecs de ce profil-là dans l'effectif, je trouve que c'est encore précieux, tu vois. Même s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup des joueurs comme ça, mais tu vois, en sortie de banc, j'arrête pas de dire que j'aime bien TJ McConnell. Je dis pas que c'est le prototype du floor general, il sait faire d'autres trucs, hein. Mais j'aime bien sa manière qu'il a, la manière qu'il a de parfois d'être un meneur gestionnaire tout bêtement, et ça apporte beaucoup à son équipe, même si c'est pas un titulaire. Après, oui, peut-être que ça, c'est moins utile aujourd'hui d'avoir un mec indéboulonnable qui est là. Donc, il reste Chris Paul, mais bon, il est quand même plutôt sur la fin. Tyus Jones, c'est pas un titulaire indiscutable encore à NBA, donc il y a aucune équipe qui s'est dit il faut absolument qu'on ait ça. Maintenant, là, on privilégie des meneurs un peu hybrides comme tous ceux que tu as cités tout à l'heure. Donc ouais. Et puis pour revenir à l'attaque en triangle, moi, c'est vrai que je suis resté sur l'échec des Knicks et qui était aussi lié au personnel, ce que tu as évoqué, Carmelo Anthony, tout ça. Et Phil Jackson l'avait évoqué via son pote dont j'ai oublié le nom, Charlie Rosen, je crois. Tu sais, il faisait passer via des blogs, il faisait passer des messages assez, assez saignants, et où il faisait comprendre que Carmelo et les autres n'avaient probablement pas le bagage tactique pour réussir à adopter cette stratégie.
Après, le problème pour en venir aux Suns, c'est, je pense que finalement, dans leurs trois joueurs, il n'y en a aucun qui est vraiment naturellement un créateur pour les autres. Ils génèrent de l'attaque parce qu'ils sont capables de scorer, ils sont capables de faire la passe si besoin. Mais je pense pas qu'il y en... qu'aucun de ces trois-là, ça soit vraiment leur force de pouvoir créer pour les autres. Et c'est là, en fait, après, c'était, on en parlait juste entre nous avant un CQFR un matin. C'était un peu sur le ton de la provoque, mais je disais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de niveau entre Devin Booker et Jamal Murray? Alors, tu vois, sur le papier, je suis d'accord pour dire que Devin Booker est probablement un meilleur joueur. En fait, tu sais, si tu as une page une feuille blanche, tu dois construire un roster. Je comprends que tu prennes Devin Booker avant Jamal Murray. Mais finalement, il y a des choses que Jamal Murray fait, notamment dans la création, que Devin Booker, c'est pas du tout dans son registre de joueur. Et en fait, par exemple, imaginons que tu remplaces Bradley Beal par Jamal Murray, qui est un meneur moderne, entre guillemets, scoreur. Je pense que tu gagnerais en tout cas en création dans le jeu. Tu vois, tu aurais du jeu avec Nurkic qui serait, je pense, plus efficace sur lequel t'appuyer. C'est au bout du compte, je pense que ces trois stars-là, c'est trois très forts joueurs. Mais pour que ça fonctionne à plein régime, il aurait fallu le KD d'il y a 4 ans. Le KD d'il y a 4 ans qui est injouable et qui aurait vraiment monopolisé autant la défense. En fait, sans créer comme un meneur, il aurait créé de l'espace, il aurait créé du jeu par sa simple présence. Là, j'ai l'impression que les équipes ont plus forcément peur de lui, en fait. Du moins, attention, hein, c'est toute proportion gardée, bien sûr.
Ah non, je comprends. Et juste à la décharge de Bradley Beal, c'est parmi les trois, enfin, et parmi les deux, parce que Booker est un arrière, meneur arrière aussi. Beal, il a quand même, alors à la demande de Frank Vogel aussi, il a essayé à un moment d'être plus ce meneur-là, et des matchs où il a fait 13, 14 passes. Alors, tout n'est pas dans la passe décisive, hein, c'est pas ça qui a valeur de vérité absolue, mais j'ai eu l'impression qu'il avait essayé cette métamorphose pour que ce soit utile, parce que les Suns en avaient besoin. Ça a eu un succès limité pour diverses raisons, mais pour l'instant, c'est un succès limité. On va voir, ils ne sont pas du tout éliminés hein, des playoffs. Il y a des matchs à venir. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, il y en a un qui se sera joué. Donc peut-être que ce qu'on a dit là sera moins pertinent. Mais ouais, je voulais juste ajouter cette nuance sur Bradley Beal. À chaque fois, j'ai trouvé qu'il avait fait ces efforts-là, en tout cas. Alors qu'on parle d'un mec qui a été meilleur scoreur de la NBA, quoi.
Ouais, non, mais t'as raison de le souligner. C'est là, je dis, en fait, je reviens au ce que tu es naturellement. C'est-à-dire qu'il est capable de le faire ponctuellement, mais en fait, ce qui a manqué au Sun, c'est vraiment de la continuité. C'est pour ça que là, on se dit, mais il n'y a pas de jeu, en fait. C'est le constat que tout le monde s'est dit en regardant les deux premiers matchs. Après, il faut rendre le crédit à la défense des Wolves. La défense des Wolves y est pour beaucoup aussi dans le fait que t'as l'impression qu'il n'y ait pas de fond de jeu pour les Suns. C'est parce qu'en fait, je pense que ça permet de mettre sous une loupe, en fait, toutes les imperfections de cette association de joueurs qui n'a pas eu l'occasion, en fait, de se développer suffisamment, en fait.
Ouais. Et alors, tu parlais de Chris Paul tout à l'heure, enfin, qu'on parlait du fait que c'était un peu un meneur à l'ancienne. Il y a une question qui l'implique. C'est une question de Jackie Chanel qui nous demande parmi les 5 joueurs suivants qui auront au moins 36 ans lors de la prochaine saison, selon vous, quel est celui qui devrait arrêter les frais et quel est celui qui a encore quelque chose à donner? Alors, ça peut être plusieurs d'entre eux. Hein, il nous donne 5 noms. Et donc, alors, tu vas me dire s'il y en a un dont tu penses qu'il devrait vraiment arrêter les frais et un dont tu penses qu'il a encore vraiment beaucoup de choses à donner. Le premier, c'est donc Chris Paul, 39 ans. Le deuxième, PJ Tucker, 39 ans aussi. Jeff Green, 38 ans. Danny Green, 37 ans. Et Derrick Rose, 36 ans. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui te paraît sortir du lot pour l'une ou l'autre des catégories proposées par Jackie Chanel?
Alors, pour ceux qui devraient raccrocher, je pense que si les deux Green un jour arrêtaient de venir à l'entraînement, personne ne s'en rendrait compte.
C'est clair.
T'as dû me rappeler que Danny Green était encore dans un roster, par exemple. Tu vois, j'avais même oublié. Je pensais qu'il était toujours en convalescence.
Je l'ai plus vu en invité sur des émissions et des podcasts que sur le terrain, oui.
Donc pour les Green, oui. S'ils peuvent continuer à gratter de l'argent et jouer un rôle de mentor, hein, parce que ça, on le voit pas aussi sur le terrain. Je pense que Jeff Green, même, c'est plus pour ça qu'il a signé à Houston, clairement, que pour ses performances sur le parquet. Donc j'aurais tendance à dire oui pour eux deux. Pour PJ Tucker, je sais pas trop, en fait. J'ai l'impression que c'est trop tard aussi.
Ouais.
Simplement, il a tellement peu joué cette année que c'est dur de savoir si ça a pas matché dans les équipes où il était ou si c'est qu'il peut plus. Mais je pense que c'est très limite. En ce qui concerne les deux meneurs, Chris Paul et Derrick Rose, je pense qu'ils ont encore des choses à apporter. Je pense que Chris Paul, je ne sais pas si ça lui plaira de l'entendre, mais je le vois, il a des choses à apporter, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans une équipe qui joue le titre.
Ah ouais, un peu sur le modèle de ce qu'il avait fait avec OKC, par exemple.
Absolument, absolument. Alors, même peut-être pas forcément dans un rôle de titulaire dans une équipe comme ça, mais vraiment dans un rôle de mentor pour le groupe, pour certains joueurs, Je pense qu'il peut apporter beaucoup, même aider aider une équipe à passer un cap. J'avais vu passer enfin voilà, certains l'imaginaient signer aux Spurs par exemple cet été, et ça aurait beaucoup de
Pas
sens,
mal,
je pense, à
c'est pas
condition
mal.
que lui comprenne bien le deal. C'est ça le truc, quoi. À condition qu'il comprenne bien que ça soit que limite, quelle que soit l'équipe, il sera pas titulaire en fait. Limite, même s'il faut être remplaçant de Trey Jones. Parce que tu dois ton toi ton ce que le club attend de toi, c'est aider au développement de l'équipe. Je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter. Pour Derrick Rose,
C'est
je pense que
dur,
oui aussi.
je pense, ouais.
Mais c'est pareil, c'est pas c'est dur en fait. Il a tellement manqué de temps sur les parquets que tu as envie de le voir encore un peu, quoi.
Enfin, ces stats sur de participation sur les dernières saisons. Alors, il y a les blessures et puis il y a aussi là, parfois quand il est sorti des rotations. Hein. Mais alors, il avait fait une saison à 50 matchs avec Détroit. Puis après, 2020-2021, il joue 15 matchs avec les Pistons et 35 avec les Knicks. Saison suivante, 26 matchs avec les Knicks. Saison d'après, 27 matchs avec les Knicks. Et cette saison, 24 matchs avec les Grizzlies. Donc, il est encore capable de marquer des paniers. Je veux dire, c'est un mec brillant offensivement, mais. Il peut plus compter sur son explosivité parce qu'il y a plein de mecs qui sont maintenant au moins aussi explosifs que lui l'est. Et puis bah, c'est compliqué de réussir à rester utile quand tu as été un joueur aussi fort, même si c'était sur une période brève et que tu as traversé tout ce que tu as traversé. Je suis d'accord, je pense qu'il peut encore avoir un rôle vraiment sur un rôle très limité sur une dizaine de minutes dans une bonne équipe. Parce que là, le côté mentor avec les jeunes, on l'a vu, je ne sais pas si c'est tant fait que ça pour lui. Les mecs l'aiment bien, hein, là où il parle, les Knicks, ils l'ont bien aimé, même les Grizzlies. Mais je ne
Je sais
sais
pas
pas
si c'est
s'il
dans,
peut.
je
Ouais.
sais pas si c'est dans son tempérament non plus. On le sait. Finalement, c'est fou. Enfin, limite, tu veux une, c'est même pas. J'allais dire un film. Tu veux une série sur la vie de Derrick Rose. Parce qu'au bout du compte, ce mec-là, il a été plus jeune MVP de tous les temps, qui a été au niveau longtemps, qui a longtemps fait la une des journaux entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'on en sait toujours aussi peu sur qui est ce mec en fait.
Ouais, c'est quelqu'un d'assez discret finalement. Il y a des épisodes de sa vie plus ou moins tumultueux qui ont été relayés, mais même ça, il y a des zones d'ombre. Donc c'est peut-être qu'on en saura plus que quand il aura définitivement arrêté et qu'il se livrera, mais je suis assez d'accord. Et du coup, pour essayer de répondre à la question, je pense aussi que Chris Paul a quelque chose à apporter. San Antonio, je trouverais ça cool. J'aimerais bien, moi tu sais, j'aime bien soit les retours à la maison, soit là où les choses ont commencé. Peut-être aux Pelicans, j'aimerais bien à New Orleans, je trouverais ça cool. Mais pour les autres, Danny Green, je pense que c'est terminé. Jeff Green, j'aime bien le fait qu'il soit retourné à Houston parce qu'il avait été. On n'a pas forcément beaucoup parlé de son rôle avec Denver l'année dernière, mais il était hyper important et puis impressionnant athlétiquement pour un mec de son âge. Il claquait des dunks
C'est
qu'on
clair.
a sans doute jamais vu pour un mec qui avait 37 ans, c'était assez incroyable. PJ Tucker, je pense que c'est fini par contre. Le registre. Intérieur undersized qui met des paniers à 3 points dans le corner, il l'avait déjà perdu sur les dernières saisons. Peut-être
Ouais,
pas
t'as
entièrement
raison.
de sa faute, mais je pense que c'est. Puis 30, 39 ans, c'est. Voilà, c'est compliqué. Je sais, je miserai pas sur une place pour lui dans un roster. Je pense qu'il va aller s'occuper de sa collection de sneakers et venir dans le Hoop Culture parler de ça avec vous, avec Pierre Armand. Voilà, ça ira très bien.
Tu sais, c'est ce que j'allais dire, il doit en avoir marre de devoir la déménager tous les 6 mois aussi,
C'est
d'envoyer
ça.
des camions, des énormes camions, tu vois, tu sais, les trucs qu'on voit spéciaux sur la route, tu fais, c'est
Ouais.
quoi ça? T'inquiète, c'est PJ Tucker qui vient d'être tradé à Chicago, et t'as une liste de camions comme ça sur le chemin. Mais ouais, non, mais t'as raison pour PJ Tucker, je pense aussi que finalement, c'est pas un hasard s'il est pas sur le terrain, s'il pouvait apporter, il serait sur le terrain, quoi.
Je pense aussi.
Ouais.
Alors, on passe à la suivante. Question de Loulou, notre pongiste d'élite de la Late Session, avec lequel j'ai pu passer un moment très sympa l'autre jour à la soirée Trash Talk au Grand Rex. Concernant mes Mavs, quel role player serait pour vous idéal afin d'accompagner le duo Kyrie-Luka? Son rôle, son poste, son vécu dans la ligue et sa mentalité qu'il a pu montrer au sein de la NBA depuis qu'il y est, une espèce de troisième option, mais qui n'est pas une star ou qui n'a plus ce statut. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Bah, en voyant la question, j'y ai réfléchi 2 minutes. Donc, si t'as pas d'idée, je peux
Vas-y,
essayer
vas-y.
de. Mais moi, je voyais bien un mec que j'aimerais bien sortir d'une situation. Moi, j'aime pas les mecs qui sont forts et qui sont dans des situations pas souhaitables ou pas compétitives. Donc, je pense que les gens savent que j'aime bien Jeremy Grant, par exemple. Je l'ai toujours vu comme, tu sais, un mec qui attendait la bonne situation, un peu comme Aaron Gordon, sauf que Gordon était un peu plus sur le devant de l'affiche. Donc un Jeremy Grant qui peut être très fort en attaque, c'est-à-dire tourner à 20 points de moyenne, mais aussi être très très bon en défense. je trouverais que ce serait. Moi, de toute façon, il me faut, là, dans cette optique-là, il faut un mec avec des qualités défensives. Il faut que la troisième star en question, ou le troisième larron dans l'histoire, ce soit un joueur vraiment très fort en défense. Je ne vois pas les choses autrement pour Dallas parce que, bah, du coup, ça pourrait être un Jeremy Grant, ça pourrait être un Michael Bridges, ça pourrait être. Ouais, je sais pas. Spontanément, c'est ces deux-là qui me viendraient. Mais je trouve, en tout cas, quelle que soit l'identité du type, il faut que ça défende. Idéalement, peut-être que ça shoote un peu aussi. Parce que là, concrètement, leur troisième option, c'est qui? Enfin, si tu dis, tu dois faire une hiérarchie, Tim Hardaway?
C'est non, bah non, en fait ça
Ouais.
l'est de moins en moins. C'est justement enfin, moi j'allais y venir. Je pense que leur troisième option, elle est fluctuante en fait. Ça, d'un match à l'autre, ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que, alors, c'est certainement pas le meilleur. Je vais regarder, attends, j'ai ça sous les yeux. Je vais te dire qui est le troisième meilleur marqueur des Mavs. C'est effectivement Tim Hardaway Jr. à 14 points. Mais en fait, justement, moi j'allais te dire, il faudrait un shooter plus fiable que Tim Hardaway Jr.
Ouais,
À 3
un peu
points en fait.
streaky, ouais, c'est vrai.
Tu vois, parce qu'il est. Bon, c'est correct, 35%, c'est correct, mais moi j'ai l'impression que je pensais à deux registres de role-player. Alors j'étais pas forcément dans l'idée troisième option, en fait, tu vois, parce que la question qui nous était posée, c'était sur role-player. C'est un shooter vraiment d'élite, un shooter élite à 3 points, mais tu vois, pas simple, mais effectivement, qu'il puisse au moins tenir son poste un petit peu. C'est pour ça, tu sais, sur le premier match, je comprenais pas que Josh Green soit à ce point-là peu utilisé, parce qu'il est quand même à 38% de réussite à 3 points, et je le trouve. Je le trouve plus sûr quelquefois que Tim Hardaway Jr., qui certes peut avoir des moments très hauts et aussi des moments qui est trop fluctuant à mon goût. Donc moi j'aurais dit ouais, effectivement, mais c'est peut-être Josh Green, hein, le joueur dont je parle en fait. S'il passe un cap, une espèce de Josh Green plus, soit ça, soit un mec capable de dynamiser vraiment une second unit et vraiment de donner beaucoup de rythme sur une second unit et qui puisse permettre à terme à Jason Kidd de ne pas avoir besoin de systématiquement avoir soit Luka, soit Kyrie sur le terrain, ou du moins d'épargner un petit peu leur temps de jeu en saison régulière, de manière à pouvoir, tout en gardant un niveau de qualité de jeu sur le terrain. Donc c'est un peu les deux registres. Alors les Mavs sont plutôt bien fournis en shooter à 3 points, ils ont clairement, le recrutement il est uniquement axé là-dessus, mais je pense qu'il leur manque, ça sera peut-être Josh Green. Je suis curieux de voir aussi le développement, tu sais, de PJ Washington. Je
Ouais,
pense
sur
pas qu'il
les,
sera.
ouais, il a fait des, il a eu des bons passages et ça peut être ce registre-là, un mec capable de défendre correctement et qui peut aussi prendre feu offensivement. Il l'a fait pas mal de fois avec Charlotte, hein.
Bah, ouais, c'est ça, parce que bon, à 3 points, ça va un petit peu contre l'argument que je te proposais, parce qu'il est que à 31% de réussite à 3 points sur la saison. Mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner dans un. C'est dur ce que j'ai à dire pour les Hornets, mais ouais, dans une équipe fonctionnelle, quoi. Tu
Ah
vois,
bah,
qui a des objectifs très précis et qui, avec un staff aussi, qui va pouvoir lui dire, bon bah voilà, nous, on veut gagner le titre,
ouais.
donc voilà le joueur qu'on veut que tu sois. Donc s'il y a ces 2 points techniques sur lesquels il faut que tu progresses, tu vas passer tout l'été à bosser sur ces 2 points techniques, quels qu'ils soient, plutôt que d'être dans une équipe finalement où c'est encore un jeune joueur. Donc tu sais, je comprends qu'il veuille développer l'étendue de son jeu parce que voilà, on connaît pas encore son plein potentiel, mais dans une équipe comme les Hornets où finalement bah ça allait un peu nulle part, tu sais pas trop qui devait être quoi. T'as dit il a fait des cartons, mais est-ce que c'est censé être le mec qui fait des cartons, ou est-ce que c'est censé être une espèce de Aaron Gordon, tu vois, du pauvre. Voilà, je pense que je suis curieux de voir ce qu'il va donner l'an prochain avec les Mavs, avec une saison pleine, et de voir aussi dès le début de l'année, quel sera son rôle au sein de cette équipe? Parce que sur les 2 premiers matchs, même sur le premier match qui avait été perdu par les Mavs de manière assez dramatique, moi je l'avais trouvé bon quand même dans son apport.
Ouais. Et du coup, en réfléchissant là, pendant que tu parlais, je me disais que un mec qui pourrait vraiment faire l'affaire, mais je pense pas qu'il soit bougeable ou que l'équipe dans laquelle il joue veuille le bouger. Mais la projection que j'ai pour Trey Murphy, par exemple, je trouve que c'est un shooter.
Ah bah.
Ça peut et ça doit être un shooter d'élite. Il a tout pour ça. C'est typiquement le joueur qui serait parfait pour eux, mais je vois pas pourquoi les Pelicans lâcheraient Trey Murphy alors qu'il a manqué le début de saison sur blessure et que dès qu'il est arrivé, il a fait des. Moi, pour moi, c'est-à-dire qu'il est encore que, entre guillemets, à 15 points par match, mais il peut tourner à bien plus, il peut avoir une adresse à 3 points même encore supérieure. Il sort d'une saison, donc la saison précédente, il était à 40,6 et là, il est à 38% en ayant augmenté son volume. Donc, ouais, lui, ce joueur-là, je
Et en
le.
venant de blessure aussi sur le début de la saison.
Ouais, exactement. Voilà. Donc, bon, je ne pense pas que les Pelicans vont s'en séparer, mais si toutefois il fallait cibler précisément un joueur qui peut être cette troisième option, j'aurais bien dit un mec comme Trey Murphy.
Ah bah, je suis d'accord à 2000% parce qu'en fait, il coche toutes mes cases, quoi. C'est genre, c'est Josh Green et PJ Washington en un joueur avec peut-être un potentiel au-dessus des deux que j'ai cités. Trey Murphy serait magnifique. Franchement, si les Mavs arrivent à mettre la main sur Trey Murphy, c'est que les Pelicans, faut qu'ils changent de. Faut, non, en fait, je vais reformuler ma phrase. Faut qu'ils donnent leur licence à Seattle, que les Seattle retrouvent les Sonics et que voilà, les Pelicans cessent d'exister parce que ça aurait vraiment pas de sens que New Orleans puisse se laisser prendre Trey Murphy.
Allez, on passe. Alors, ça va être deux questions et ça va se répondre un peu. Tu vas voir, c'est en miroir. On va les
Ouais.
aborder une par une. C'est sur une série qui nous intéresse forcément particulièrement, celle entre Boston et Miami. Alors, la première question, c'est une question de Jules qui nous dit. Alors, une fois de plus, bravo pour cette constance dans l'effort. Vous êtes les Iron Man du podcast de la balle orange. C'est impressionnant, il faut le dire, car même si c'est une passion et votre job, c'est toujours une performance de couvrir autant tout en apportant de la valeur. Bon, fini les caresses, place à la question venue du banc, plus particulièrement celui du Heat de Miami. Après une gifle prise dans le game 1, le Heat a réussi à prendre le game 2 à la surprise générale, sauf pour ceux qui connaissent l'ADN de cette franchise et le flair de ce coaching staff. Entre le game 1 et 2, Spoelstra s'est adapté en défendant bien plus fort la ligne extérieure pour diminuer le nombre de tirs à 3 points des Seas, mais aussi diminuer fortement leur réussite. De l'autre côté, Miami a augmenté son nombre de tirs et pris des tirs plus spontanés. Et d'après des consignes évidentes, tirés à 3 points ou dans la peinture, les rares mid-range ont été pris par Bam en fadeaway sur Porzingis. Ma question, donc on y vient, Miami ne va-t-il prendre qu'un game dans cette série ou, grâce à cette force tactique, les Floridiens vont-ils casser la machine verte, perdre d'adresse extérieure et donc de leur ADN, et jouer une longue série alors que tout le monde voyait le sweep assuré?
Ouais, c'est la question, voilà, c'est la question à 1 million de dollars de l'époque, donc à 1 billion de dollars de maintenant. Écoute, on en avait parlé déjà dans le CQFR, je vais pas remettre une couche sur tout ce que je pense d'Eric Spoelstra, mais c'était une masterpiece effectivement ce deuxième match. Je pense malgré tout que Boston a vraiment les outils pour pouvoir passer Miami privé de Jimmy Butler, de Terry Rozier et compagnie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Miami ne donnera pas le bâton pour se faire battre. Donc, il faut que Boston, faudra que Boston trouve les ressources. D'un point de vue tactique, voilà, je pense que là où Miami a été, pardon, j'ai réfléchi en même temps que je parle, là où Miami a été très fort en fait sur ce match défensivement, c'est qu'ils ont réussi à complètement enrayer la machine des Celtics et donc ils ont complètement réussi à perturber leur circulation de balles et les Celtics sont retrouvés quasiment tout le temps à attaquer à l'arrêt. Et c'est une équipe qui a vraiment. Son rendement offensif était justement basé sur le fait que tout le monde. Ils jouent five out, il n'y a personne dans la raquette. Tout le monde peut pénétrer, fixer, trouver un shooter. Première passe, deuxième passe, troisième passe, shoot ouvert. Et en fait, Miami a coupé ça complètement. Nikola Jovic a fait un match assez impressionnant au deuxième match défensivement. Tous, hein, Tyler Herro, tous. Et en fait, ils ont fait un travail défensif admirable qui a vraiment réussi à enrayer la machine. Et de l'autre côté, Miami a joué avec beaucoup d'aisance, j'ai trouvé. La réussite, en fait, la réussite, elle est hors norme, la réussite de Miami. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tant la réussite que la qualité du jeu proposé, en fait, par Miami. Les tirs qui sont pris, certains sont un peu contestés, mais finalement, il n'y a pas eu de hero ball du tout, d'action. Tu sais, si tu isoles les actions les unes après les autres, tu dis, bah oui, Jaquez, il peut mettre ce tir. C'est pas, il n'y a rien qui était en dehors de son registre. C'est juste que Miami a réussi à mettre tous ses joueurs en situation de réussir dans leur registre. Et ça, je pense que Boston a les armes pour le perturber. Parce que cette équipe de Boston a les défenseurs, enfin, la qualité défensive de cette équipe de Boston doit leur permettre de plus perturber Miami offensivement et donc de générer plus de paniers faciles, de contre-attaques, de relances que ce qui a été dans le premier match et donc de retrouver de la fluidité. Donc, moi, j'adore cette équipe de Miami. Je pense quand même que sur le papier, elle est trop diminuée pour pouvoir vraiment battre Boston, voire même étendre la série. Mais ceci étant dit, les armes sont dans les mains de Boston, en fait. Parce qu'on sait ce que Miami va faire.
Moi, j'y croyais pas avant le début de la série, et du coup, aujourd'hui, je me redis pourquoi est-ce que tu n'y as pas cru? Je parle juste sur le fait que la série soit disputée. Hein. Je pense toujours que Boston va se qualifier, mais en fait, il faut jamais considérer que cette équipe de Miami va pas trouver des ressources pour rendre la série intéressante. Et là, c'est le cas aussi. En temps normal, on se dirait oui, c'était un match, c'était pas un accident, mais c'était un match parfait pour eux et un match raté de l'autre côté. Mais avec ces joueurs-là, même sans Butler et avec ce coach-là, attention. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, je vais poser la deuxième question maintenant parce qu'il y a l'effet miroir qui fait que les Celtics, pour répondre à cette question, c'est aussi important de savoir ce que les Celtics vont faire en réaction à ce qui s'est passé. C'est une question d'Asdine qui nous dit je voulais vous parler donc de la série Miami-Boston, etc. C'est un fan du Heat. En voyant le match 2, j'ai vu que les gars n'allaient pas abandonner. C'est un peu l'âme de la franchise. Mais j'ai surtout vu une énorme différence au coaching, ce qui ne m'a pas surpris, entre Spoelstra et Mazzulla. Et il voulait nous dire qu'il avait la conviction que Mazzulla allait, à terme, pas forcément sur cette série, coûter le titre à Boston. Notamment sur le body language, il dit quand on voit Spoelstra, on voit un mec habité sur le banc en constante recherche. Quand on voit Mazzulla, on voit un mec complètement absent qui galère à prendre des temps morts, limite les mains dans les poches. Je me souviens qu'à l'époque, on parlait de Phil Jackson comme le mec le plus tranquille et zen du game. Le souci, c'est que lui, il a eu les deux plus grands arrières de l'histoire dans ses équipes, ce qui aide un peu en termes de zénitude. J'ai l'impression que dans cet effectif de Boston, il faudrait un mec qui soit capable de leur rentrer dedans. Alors, ils avaient ça avec Udoka avant, hein, mais voici mes questions. Pensez-vous que Joe Mazzulla a une réelle influence sur cette équipe? Sera-t-il le premier fusible à sauter en cas d'échec en playoff?
C'est une bonne question. Je pense qu'en cas d'échec, oui, ça sera le premier fusible à sauter, ça c'est sûr et
C'était
certain.
déjà tendu à l'intersaison, hein. C'était déjà presque une
Exactement. Après,
surprise qu'il ait été prolongé, hein.
oui, c'est clair. Après, ce qui est compliqué sur le body language, c'est compliqué parce que je pense que, enfin, je sais pas, Chat, j'imagine que tu as dû l'entendre en interview, il est toujours extrêmement posé en fait. Il n'est pas du tout expressif. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement réfléchi, quoi. Enfin, je pense que c'est quelqu'un de brillant, effectivement. Tu sais, c'est le gift and the curse, là. C'est que tu te retrouves à la tête propulsé à la tête d'une équipe dont le seul objectif, c'est le titre. Et en même temps, tu es encore un très jeune entraîneur. Il a une belle expérience, mais c'est un très jeune entraîneur. Et ce qui fait que tout est magnifié. Après, voilà, tu tombes face à Spoelstra. Je leur dis, hein, tu peux mettre tous les coachs que tu veux en face. Ils vont perdre un match ou ils vont galérer. Tu peux mettre Greg Popovich avec une autre équipe que les Spurs. Tu peux mettre Greg Popovich à la tête des Celtics. Je pense qu'effectivement, ça jouera mieux, mais Spoelstra peut quand même te prendre un match. C'est ce niveau d'expertise. Après, effectivement, la question des temps morts, bon, il y a aussi une question de philosophie. Tu sais que c'est marrant qu'il parle de Phil Jackson, parce que moi, je me suis posé la question aussi. Moi, j'ai grandi avec le mythe du Zen Master. Il est trop fort, il laisse les joueurs trouver les solutions. Et un jour, je me suis dit, mais est-ce que lui, il les avait, les solutions? Je trouve, il les avait pas non plus, en fait. Mais effectivement, quand tu as Jordan, Pippen ou Scottie, ou que tu as Kobe Bryant et Shaq sur le terrain, bah, c'est plus facile de dire non, mais ils vont se démerder, parce qu'il y a suffisamment de talent pour qu'ils se démerdent. Après, Boston, vu tout le talent qu'il y a sur le terrain, tu pourrais te dire, bah, ils vont se débrouiller aussi pour trouver les solutions. J'ai pas sur le truc des temps morts, je sais pas trop. Par contre, oui, c'est sûr que je sais pas comment le formuler en fait. Je trouve que ça serait pas honteux pour Mazzulla de se faire outcoacher par Spoelstra parce que c'est pas le même niveau et c'est pas tant une pique envers Mazzulla que je pense qu'il y a pas beaucoup de coachs qui peuvent boxer dans la même catégorie que Spoelstra. Par contre, effectivement, ça peut leur coûter la série. Potentiellement, même si je pense pas, comme je te le disais, je pense qu'il y a quand même trop de talent dans cette équipe de Boston. Et par contre, c'est sûr et certain, si jamais Boston n'est pas en finale NBA, je vois pas de scénario dans lequel Joe Mazzulla serait l'entraîneur de cette équipe à la rentrée.
Pareil, et pour ajouter à ça, les gens savent peut-être pas, mais Mazzulla, que j'ai vu sur un segment avec, ça devait être avec le Players Tribune peut-être, c'est un gros fan de foot, de soccer, et il utilise vachement les équipes, les plus tactiques, entre guillemets, notamment Manchester City avec Pep Guardiola. Il est fan absolu de Pep Guardiola, qui est voilà, dans une intellectualisation extrême du sport et de la tactique. Et c'est un gars intéressant, c'est vraiment un gars intéressant. C'est pas
Ouais.
un type qui s'est retrouvé propulsé là parce qu'il, je sais pas, parce que il avait des bonnes relations avec les joueurs ou quoi. C'était d'ailleurs plutôt l'inverse sur la fin de saison dernière, hein. Ils avaient du mal au niveau relationnel, c'était pas simple de faire passer les idées. Ça s'est quand même franchement amélioré, je pense, cette année, parce que j'ai pas ressenti d'incompréhension. Après, Boston a fait une saison tellement incroyable que voilà. Mais oui, si Boston perd, ce sera le fusible. C'est une équipe qui est avec des joueurs qui ont signé des gros contrats, qui vont en signer des très gros. Hein. Tatum, ça va pas tarder. Donc oui, ce sera lui le fusible. En tout cas, il est plus, je le trouve plus intéressant et plus complexe dans son approche que ce que je pensais au départ. Voilà.
Ouais, non, c'est clair. Mais puis, C'est vrai que l'effectif, je veux dire, bien sûr que prendre les temps morts au bon moment, bien sûr que c'est important, arriver avec des solutions dans les temps morts, bien sûr que c'est important. Tant que tu regardes, je veux dire, l'équipe de Boston, il n'y a pas de secret, quoi. Y a pas, tu vas pas sortir un mec de ta botte secrète. Ils ont un 5 majeur qui est monstrueux. Faut que le 5 majeur joue au niveau qu'est le sien. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas apporter des ajustements tactiques, qu'il n'y a pas des choses à faire pour voilà, faire déjouer cette équipe de Miami. Encore une fois, je pense que vraiment toutes les cartes sont, dans les cartes, sont entre les mains de Boston. Par contre, il disait ouais, quelqu'un pour leur rentrer un peu dedans. C'est la question qu'on se pose depuis longtemps avec cette équipe de Boston, finalement. J'ai l'impression qu'on en revient toujours à la même question, et que ça soit juste ou pas, dans ce cas-là, tu regardes le meilleur joueur de l'équipe. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est peut-être injuste, mais le regard se tourne vers Jason Tatum. C'est pas qu'il a été particulièrement mauvais sur ce deuxième match, mais il y a un moment, qu'il y ait du leadership qui s'exprime. S'il vient pas du banc, il faut qu'il vienne du terrain. Et donc, bah, ça va être intéressant de voir, parce que finalement, c'est vrai que depuis que t'as plus Marcus Smart, même si moi j'avais trouvé que le trade c'était un bon trade pour les Celtics, t'as plus personne pour aboyer, quoi. Jrue Holiday, c'est pas son tempérament. Porzingis, c'est clairement pas son tempérament. Je parle des nouveaux joueurs. Le reste de l'équipe, bah, on sait que Al Horford a pu le faire. On sait qu'il est respecté par le vestiaire, etc. Mais après, c'est toujours pareil. Al Horford peut faire ce qu'il veut. Il a l'âge qu'il a et il a l'impact qu'il a.
On verra bien ce que ça donnera pour ces Celtics-là et pour cette série. Est-ce y aura eu un match de plus? C'est ça, le prochain match, c'est. Je
Non,
sais plus.
ça doit être samedi, donc ce soir, je pense, non?
Ouais, ça doit être. Je
Ouais.
pense que tu as raison. J'ai jamais vraiment bien le calendrier en tête avec les différents jours, mais oui,
Je vais vérifier ça quand même.
on en saura dans tous les cas bientôt plus sur cette confrontation qui reste à suspense. Moi, j'espère quand même voir Miami poser des problèmes aux Celtics juste par curiosité, sans être un fanat
Ah
du Heat.
bah.
Et on a juste envie d'emmerder Antoine Pimel, il faut le dire, voilà.
Moi, j'ai juste envie que Jimmy Butler revienne. Attends, donc ce sera dimanche le prochain match de la série
Ah, dimanche
Celtics-Miami.
soir, ouais.
Parce qu'effectivement, alors vous le savez peut-être pas ou vous avez oublié, moi je ne l'ai pas oublié parce que je me le suis noté dans un coin, mais avec Antoine Pimel, on a un pari en cours aussi. Moi, en début d'année, j'avais dit qu'il n'y avait pas de scénario dans lequel Miami passerait pas le premier tour. Alors, je n'avais pas imaginé que Jimmy Butler serait blessé pour plusieurs semaines, je vous le cache pas, mais du coup, moi aussi, je serais ravi que cette série s'éternise.
Question suivante, question de Amato Yoshi. Salut l'équipe, je me refais l'image de la nuit. Alors, ça devait être après le match 2, en l'occurrence. Anthony Edwards qui harangue KD, ouah, les frissons. Ma question, nous sommes nombreux à avoir observé et échangé autour d'une pseudo-perte d'âme au sein de la Ligue. Traduction, ça se tape moins, la Ligue est devenue soft, ils sont tous copains, etc. À juste titre d'ailleurs. Néanmoins, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'un vent nouveau souffle. Edwards, Doncic, Jamorant, Mathurin, ce bon vieux Mo Wagner, Banchero et Şengün, eux aussi ont ce petit truc aussi, même si on ne dirait pas comme ça en les voyant. Je pense aussi à Aldama récemment. Les 20-25 ans ouvrent leur bouche et c'est appréciable dans la mesure où c'est globalement sain. Conclusion, sur les parquets, ça parle beaucoup et ça se chambre pas mal finalement. Je souhaite donc avoir votre sentiment. La Ligue peut-elle retrouver ce qui a fait son sel, cette bagarre entre guillemets, qui sert le storytelling?
C'est une bonne question. La question, c'est est-ce que la Ligue veut de
Va
ça?
laisser faire, ouais. Je suis
Ouais,
pas sûr.
c'est que je sais pas. Ce que j'adore avec l'exemple d'Anthony Edwards, en fait, c'est je trouve que c'est l'idéal, en fait. Parce qu'il va ouvrir sa bouche, mais c'est clairement. Il va pas faire le. Tu sais, il va pas faire la racaille, la fausse racaille ou essayer de s'embrouiller. Je sais pas si tu te rappelles de ce match avec. C'était face aux Warriors. Où il dit un truc, je sais pas, il y a Draymond Green qui fait une faute sur lui, il lui dit hey, calme tranquille, hey, calme-toi mec. Et tu sais, t'as Draymond Green qui se retourne en mode ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Et t'es Anthony Edwards qui le regarde en mode mais à quoi tu joues mec? On est là pour jouer au basket. Je te demande, ta faute, t'arrives à rien, personne va se battre. Hein, personne. Et je crois qu'il lui dit ça, personne a peur de toi, bro, t'as un truc
Ouais,
comme ça,
c'est ça,
reste tranquille. Donc, ouais, moi j'adore l'état d'esprit d'Anthony Edwards. Et effectivement, je trouve qu'il a bien ciblé les joueurs dont il a parlé, là, Şengün, notamment le deuxième match contre Victor Wembanyama, tu vois, qui voulait clairement en découdre. Et il a fait plus que tenir sa place. C'est plutôt pas mal, plutôt pas mal.
Ouais, mais je trouve aussi que les joueurs cités sont intéressants de ce point de vue-là. Avec Edwards, ce qui est intéressant, alors, c'est qu'il a cette fraîcheur et cette spontanéité qui le pousse parfois à dire des choses qui peuvent sembler provocantes. Mais là, ce qui est fort dans ce qu'il a fait, c'est que KD, c'est son idole, en fait. C'est son joueur préféré. Donc, il a assumé le truc. Il s'est pas caché. Et derrière, il a pas hésité à. Et ça a plu à KD, d'ailleurs. Ça a plu à KD de voir que
Ouais.
l'autre, il était dans une sorte de défi un peu à l'ancienne entre ma team contre ta team. Et puis voilà, enfin, c'est un peu réducteur, mais voilà. Donc, je ne sais pas si la Ligue va continuer de contrôler pour pas qu'il y ait de débordement qu'il aurait pu avoir avant, parce qu'il y a des joueurs qui sont devenus potes après à l'époque, mais qui se sont foutus sur la gueule en match. Hein. Enfin, quand vous voyez aujourd'hui Shaq et Charles Barkley qui se marrent à la télé, je veux dire, Shaq, il est passé à deux doigts de rendre Barkley de tétraplégique sur une patate un jour. Hein. Donc, c'est... Non, mais... donc, ça peut ne pas être indissociable. Il peut y avoir des tensions et des choses comme ça, mais la Ligue ne laissera plus jamais les choses déborder. Ils savent que le produit perdrait théoriquement en valeur, pas aux yeux des gens, parce que nous, ça peut aussi nous faire marrer si on voit des mecs se chauffer parce que c'est un match très, très compétitif. Mais aux yeux des gens qui vont mettre de l'argent dedans, entre sponsors, diffuseurs et tout, les diffuseurs ne veulent pas de bagarre à la télé. Là, les droits de télé sont en train d'être négociés. C'est évident qu'Adam Silver ne va pas passer des consignes aux arbitres en leur disant laissez les bastons éclater, laissez les gars provoquer en regardant mal sur les dunks. Ils ont relâché un peu la bride avec les lancers francs où c'est un peu moins sifflé peut-être parce que le spectacle en pâtissait, mais je pense que la Ligue ne laissera jamais revenir à une époque où ça pouvait se bagarrer et démarrer au moindre contact, quoi.
Mais je pense qu'il y aurait quand même un arbitrage plus... Je pense qu'il pourrait y avoir un meilleur arbitrage de ces choses-là. C'est-à-dire que toutes les fautes techniques pour taunting, là, quand tu restes accroché au cercle ou que tu regardes un mec après un dunk... Non, ça fait partie du jeu, quoi. Fait partie du jeu. Et je pense que c'est même... Tu sais, c'est un petit peu choquant, quelque part, d'un point de vue philosophique, si tu te dis que tu pars du principe que parce que t'es provoqué, tu vas forcément en réagir, et que si tu y réagis, finalement, tu seras juste légitime parce que t'auras été provoqué. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, Charles. Moi, je pense que tu pourrais... Laissez passer ça fait partie du jeu, et par contre être sans pitié avec les gestes qui n'ont rien à faire sur un terrain. C'est-à-dire que peut-être le gars il t'a regardé dans les yeux, mais ça justifie pas le fait que tu viennes et que tu bouscules un joueur ou que t'en viennes aux mains. Dans ce cas-là, tu prends une exclusion même direct. Allez, si tu commences à distribuer des anti-sportifs, des flagons de 3 là, dès qu'il y a des choses comme ça qui se passent, les joueurs vont s'adapter. Hein. Si t'es un athlète de haut niveau, ta première capacité, c'est ta capacité d'adaptation à ton milieu, aux règles, à l'arbitrage. C'est quasiment l'un de tes premiers talents. Donc moi, je pense que les joueurs s'adapteront. Et je pense que sur toutes les fautes techniques, tu vois, en fait, je suis choqué de voir que tu t'accroches au panier, tu regardes mal un gars, tu prends une technique. Et par contre, tu peux aller casser les couilles de l'arbitre 15 fois par match après chaque coup de sifflet. Regardez quand même le body language des joueurs après chaque coup de sifflet, de la première minute à la dernière fois, à la dernière. Tu dis, écoute, ça ne peut pas être à chaque fois, quoi. Et donc là, moi, je serais pour que les arbitres soient sans pitié. Dès qu'un joueur leur parle mal, pas attendre le troisième fois, boum, technique derrière. Et mon dernier changement de règle que je propose, Shai, c'est que les fautes techniques en NBA soient comme en FIBA, c'est-à-dire qu'elles comptent comme des fautes personnelles. Et là, je peux te garantir aussi qu'il y a un certain nombre de joueurs qui vont adapter leur comportement s'ils se rendent compte que la technique qu'ils viennent de prendre à la fin, au buzzer de la mi-temps, juste parce qu'il n'y a pas eu un coup de sifflet sur une espèce de chandelle balancée sans avoir aucune chance que ça rentre, ça compte comme une quatrième faute, et que tu commences le troisième quart-temps avec quatre fautes au compteur. Je pense que ça changerait pas mal de choses.
Ok, je vote pour toi. Si tu veux te lancer dans la campagne, on va organiser ça pour faire tomber Adam Silver et ses sbires. Bon, voilà. On va révolutionner. Question suivante d'Antoine EBC qui concerne Donovan Mitchell. Alors, en regardant le match, Antoine s'est dit le premier match de la série contre Orlando, il trouve que Donovan Mitchell croque trop en match, pour reprendre ses termes. Je m'en suis rendu compte sur une action où il n'a pas fait la passe à un joueur absolument seul sous le panier. Alors il a mis un N1 sur l'action, alors que Darius Garland, sur l'action précédente, avait lui fait la passe à Jarrett Allen pour 2 points gratuits. Pensez-vous que son comportement et son jeu peuvent nuire à son équipe? Bon, je pense qu'Antoine n'aime pas trop Donovan Mitchell, dans tous les cas, qu'il aura du mal à trouver grâce à ses yeux, parce que moi, pour répondre personnellement, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup comme ça, mais c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup, par contre. On s'est fait la réflexion avec Antoine quand on avait été au match à Paris, où tous les deux, avec Antoine, on n'est pas des immenses fans de Donovan Mitchell, on est conscient que c'est un très bon joueur et un All-Star, mais la différence avec les autres joueurs visuellement sur le terrain, c'était un match entre des équipes globalement moyenne, c'est des bons joueurs. Les Cavs sont bons, les Nets étaient un tout petit peu moins catastrophiques que sur la fin de saison, mais Donovan Mitchell, il avait l'air, malgré sa taille qui n'est pas impressionnante, d'être 10 ligues au-dessus de tous les autres joueurs sur le terrain. Donc je respecte quand même beaucoup ce joueur, et je Peut-être dans des matchs vraiment à fort enjeu. Alors, les playoffs, c'est fort enjeu, mais je n'ai pas l'impression que son individualisme va être trop problématique pour son équipe. Moi, c'est plus, et on l'a vu avec Utah, ce serait plus ses limites défensives. Ça, je pense qu'il est quand même ciblé par endroit. Ça, plus que le côté un peu perso, je veux dire, les stars, les franchise players, globalement, bah, ça joue aussi un peu pour sa pomme. Et ça, en tout cas, ça se met en position d'être décisionnaire et décisif pour leur équipe. Donc, son attitude ne me choque pas particulièrement. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Et quand Cleveland gagne, en général, il y a eu un très bon Donovan Mitchell.
Ouais, non, je partage ton avis, Shai. Je pense que... Enfin, ça aussi, on en a parlé plusieurs fois tous les deux, puis avec d'autres, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment, effectivement, il était surcoté un moment à Utah, et depuis, je trouve qu'il est plutôt sous-coté et qu'on, finalement, même ses performances au scoring, elles sont un peu parfois prises avec des pincettes. C'est vraiment un joueur élite, quand même, dans ce registre-là. Effectivement, c'est ce qu'on voyait à Utah. La création, c'est pas son. Il est capable de faire des passes, mais c'est pas son registre premier. Par contre, dans le scoring, il est vraiment élite. Défensivement, je trouve quand même qu'il est moins ciblé que par le passé.
Ouais, c'était un maillon faible hein, pour moi, franchement. Ouais. La dernière saison.
Et c'était l'un des nombreux maillons faibles à l'extérieur. Donc ça compliquait encore la tâche. Là, comme il y a un effectif qui, globalement, défensivement, est plus solide, individuellement, je ne parle pas, parce que Utah avait une bonne défense collective. Mais là, individuellement, je trouve que les joueurs sont quand même plus solides. Enfin, autour, il y a du Okoro, etc. Je trouve moins ciblé. Par contre, ce qui me gêne un petit peu quand même dans cette équipe de Cleveland, c'est dans sa construction offensive, effectivement. Et j'arrive pas à mesurer si c'est un aveu de faiblesse du développement offensif d'Evan Mobley ou si c'est un problème structurel. J'ai du mal à le voir. Tu sais, dans le deuxième match, là, contre Orlando. Ouais. Où ils ont été inexistants, les Cavs ont été inexistants. J'étais quand même assez déçu de l'impact offensif d'Evan Mobley sur des actions. Il y a des actions, je dis pas elles sont contestées, il y a un défenseur, mais tu te dis ouais, un joueur élite à ce niveau-là, il marque en fait. Et il marque avec la faute ou il marque malgré tout. J'ai du mal à me situer en fait. Tu sais, j'étais hyper chaud sur Mobley, même. Tu vois, je pensais que c'était lui le rookie de l'année où ça a été Scotty Barnes, qui est incroyable aussi. Défensivement, c'est énorme. Offensivement, j'arrive pas à voir si c'est lui finalement qui a peut-être pas ce potentiel.
Ou est-ce que c'est de la faute du GG ? C'est l'équipe, quoi.
Ouais, tu vois, la structure, la manière dont le jeu est orienté, qui fait qu'il peut pas avoir suffisamment de répétitions en match pour vraiment, tu vois, pour passer les caps les uns après les autres.
Ouais, moi, je suis un peu partisan de cette. Alors, c'est peut-être parce que moi aussi, j'ai envie de croire en lui, que je l'ai trouvé tellement bluffant défensivement, déjà tellement prêt. Alors que c'est pas un joueur qui avait des années et des années de basket universitaire ou de basket organisé devant lui. Enfin, les promesses offensives étaient déjà intéressantes et tout le monde louait sa faculté d'apprentissage. D'un mec qui s'infligeait des répétitions défensives, offensives. Et là, vu que dans le jeu, par la force des choses, il y a quand même des joueurs qui passent avant dans la hiérarchie. T'as Donovan Mitchell, Garland, c'est quand même un All-Star aussi, donc il a envie de montrer qu'il est fort offensivement. Il y a d'autres joueurs aussi autour. Et j'ai l'impression, je trouve que le jeu de Cleveland est un peu limitant pour lui, et il a moins les opportunités que j'aurais aimé le voir avoir. C'est pas entièrement de la faute de Bickerstaff ou de Donovan Mitchell. Peut-être qu'il peut aussi... être très 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 efficace avec moins de munitions, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que je n'abdique pas encore, enfin je me résigne pas à le voir devenir aussi un très bon attaquant. Je sais qu'aux États-Unis il y a pas mal de journalistes, j'écoutais le podcast avec Tim Bontemps là, tu sais, avec Brian Windhorst, ils sont souvent ils font le podcast ensemble, et Bontemps, et carrément il disait moi, pour moi c'est mort, ce sera pas un joueur élite de type franchise player. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on entendait des comparaisons sur le profil avec un Tim Duncan ou des choses comme ça. Et il y en a pas mal. Il y a pas mal de journalistes qui sont très déçus et qui pensent que ce n'est pas de la faute des Cavs, mais que c'est tout simplement la limite du talent et du potentiel d'Evan Mobley. Mais ça reste un jeune joueur avec, que j'aimerais voir avec d'autres types d'opportunités pour me faire vraiment une idée là-dessus. Dans tous les cas, je veux dire, au pire, ce n'est pas grave. Je pense que c'est un défenseur monstrueux pour 10-15 ans, il n'y a pas de problème. Déjà, c'est rien que ça, c'est quand même intéressant.
Non, je suis d'accord. Je vérifiais, j'écoutais ce que tu me disais. Je vérifiais l'âge d'Evan Mobley, 22 ans. Donc, il y a quand même encore du potentiel. Tu vois, il y a encore le temps de voir. Je pense que vraiment, c'est trop tôt pour pouvoir tirer une conclusion. Moi, je pense que je continue de penser que le trade pour Donovan Mitchell, c'était le bon choix pour Cleveland, pour essayer d'accélérer un petit peu les choses. Mais peut-être qu'effectivement, au passage, ça ralentit un petit peu le développement individuel d'Evan Mobley, qui n'a pas l'opportunité d'être autant développé que si l'équipe... Enfin, responsabilisé d'avoir les répétitions en match, offensivement notamment, que si l'équipe visait rien du tout, qu'on disait bon, on s'en fout et on fait... Alors, je dis pas à l'extrême comme ce que les Spurs ont pu faire cette année avec Victor, mais un petit peu dans cet état d'esprit de se dire, de toute façon, l'objectif de la saison sera réussi si Evan Mobley s'est développé offensivement, s'il a pu... voilà, il n'a pas eu cette opportunité-là. Moi, je pense quand même qu'il y a trop de talent pour que ça stagne complètement. À voir. Moi aussi, à la fin de sa saison rookie, je t'avoue, je me disais, non, mais en fait, c'est pas grave. Donovan Mitchell, c'est parfait parce que, à terme, dans leur fenêtre, ça va être la deuxième option. Ça sera pas forcément la deuxième option offensive, mais tu es le deuxième joueur le plus important de l'équipe. Là, on n'en est pas là. Quoi.
Ouais, on verra, mais je suis d'accord. Moi, je ne me résigne pas encore à un Evan Mobley supersonique. Voilà. Dernière question du jour de ce CQFR du samedi. Alors, c'est une question un peu plus perso. Question de Jimmy qui nous dit « D'abord, merci à vous pour tout ce que vous nous proposez chaque semaine. Je ne me lasse pas de tout suivre, même si malheureusement, je ne peux jamais être connecté pour la late session que je regarde en replay. J'ai trouvé l'interview de Judaichi par Shai l'autre jour hyper intéressante, particulièrement parce que ça touchait pas mal de sujets hors basket. Pareil pour les hoop culture avec Théo et Pierre Armand, le mélange des genres est vraiment super. Justement, je me demandais quel podcast ou émission hors basket vous aviez l'habitude d'écouter chacun ou de suivre, qu'il soit français ou anglophone. Merci. »
Alors moi j'écoute beaucoup de podcasts, effectivement c'est principalement des podcasts anglophones. Pour les podcasts français, c'est pas vraiment un podcast, mais il y a l'émission justement de Pierre Armand, de son émission Hangtime Radio Show qu'il anime chaque semaine le mardi sur Radio Grenouille à Marseille, qui est disponible aussi en replay sur les plateformes de streaming. Donc là il y a des rubriques, il y a beaucoup de musique, du bon son. Donc moi c'est la première recommandation que je ferais pour le son, c'est celle de Pierre Armand. Sinon moi j'écoute pas mal de podcasts. Moi je suis très branché musique, donc j'écoute aussi des podcasts sur la musique. Alors il y a un podcast qui s'appelle Juan Epstein qui est sur le hip-hop plutôt, que j'écoute régulièrement. Il y en a un qui s'appelle My Expert Opinion qui est aussi un podcast d'interview de rappeurs ou de producteurs américains. Ça c'est pour la musique. Après avec Shai on aime bien aussi tout ce qui est MMA, donc même si c'est pas, enfin en tout cas moi c'est pas ce que je connais le mieux, j'aime bien le podcast de John Anik avec Kenny Florian. John Anik l'excellent d'ailleurs commentateur de l'UFC, là je trouve en mode c'est le Mike Breen de l'UFC pour moi, je le trouve vraiment excellent. Voilà les premiers trucs qui me passent en tête. J'écoute parfois aussi le podcast de Joe Rogan. Alors là, ça dépend vraiment des invités.
Pareil.
Voilà. Notamment pour tout ce qui est... Dès qu'il y a des invités de type des comédiens de stand-up ou de... des personnages de l'UFC, là, j'aime bien écouter ça. Ouais, c'est l'essentiel. Il y en a d'autres qui vont me revenir en tête, mais toi, tu dois en avoir pas mal aussi. C'est vrai que j'ai même pas parlé de ceux du basket, mais toi, tu vas pouvoir sortir notamment...
Ouais, non, mais c'est parce que là, dans la question, c'était justement les émissions hors basket. Donc,
hors basket.
Ouais. Bah, si on reste dans le sport, forcément, j'écoute aussi des trucs sur le foot. Et moi aussi, je suis comme toi, je suis très podcast anglophone. Pour le foot, j'adore The Rest is Football. C'est avec Gary Lineker, Alan Shearer et Micah Richards. J'adore parce que c'est à la fois un peu ancré dans le présent parce qu'ils réagissent à l'actualité et ils parlent beaucoup du passé, de ce qui me parle de la première ligue des années 90. Enfin, c'est trois générations différentes. Lineker, il a 60 ans, Shearer 45-50 et Richards a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Et il y a beaucoup d'humour, de bienveillance. J'aime bien, c'est l'humour anglais. Je suis assez sensible à l'humour anglais, donc ça me plaît bien. Sur le sport, tu parlais du MMA, effectivement, auquel je me suis intéressé il y a quelques années. Sur du francophone, il y a Fight Minds, dont on a déjà parlé ensemble, qui est... donc c'est belgo-français, il y a des Français et des Belges dans l'histoire, qui est excellent parce que c'est très pointu tout en étant assez pédagogue, je trouve. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est le média que je vous recommande. Je regarde aussi La Sueur, qui est un peu plus ancien, mais qui est aussi toujours divertissant. Si je réfléchis, pour ce qui est podcast américain, alors humour, stand-up et tout, j'aime bien Whitney Cummings, qui a un podcast qui s'appelle Good For You, qui est pas spécialement sur sa carrière, mais peut-être que les gens connaissent, c'est elle qui a fait la série Two Broke Girls à l'époque, et c'est une des comédiennes de stand-up les plus à succès aux États-Unis. Et elle reçoit des invités, souvent des comédiens, mais parfois un peu tout le monde et n'importe qui. Et je sais pas, j'aime beaucoup, c'est très long, mais c'est plein d'anecdotes. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? l'invité, enfin l'interview avec Judaichi sur. Alors c'est sur l'apprentissage du japonais. Je n'apprends pas le japonais personnellement, mais c'est une culture que j'aime bien et ça parle beaucoup de la culture japonaise, de des animés, des mangas que j'aime bien. Donc voilà, ça fait partie des. C'est l'autre émission que je regarde. Comme émission, c'est pas un podcast, mais je sais pas si t'es déjà tombé dessus, mais il y a Small Talk de Combini avec David Castello Lopez qui travaille aussi sur France Inter. Où en gros il reçoit des gens et des stars et il parle de tout sauf ce pourquoi ils sont connus. Donc c'est j'aime bien assez les discussions où c'est voilà bâton rompu comme ça détente et où il y a pas on n'est pas sur du format très traditionnel.
Ouais, pareil.
Réponse, voilà. C'est des choses, c'est quelque chose que les Américains font à merveille et voilà, ce format-là est intéressant aussi. Je l'écoute pas mal.
Ouais, moi j'en ai deux autres en fait, parce que du coup j'ai repris la liste des podcasts que je suis parce que j'ai pas de mémoire dans l'instant, c'est pour ça que les quiz je suis pas très bon. C'est ouais le podcast de Questlove, le batteur de The Roots, Questlove Supreme. Voilà, c'est des interviews de musiciens, pour le coup le registre est très large, donc c'est vraiment cool. Et une autre émission que j'aime vraiment bien qui s'appelle Drink Champs, c'est, si vous connaissez un peu le rap, c'est le rappeur Noriega, anciennement de Capone Noriega, qui a un des podcasts actuels les plus écoutés. Et le concept est assez marrant, je sais pas si tu le connais.
Non.
C'est qu'en gros, voilà, c'est des interviews qui durent 2 heures et plus. Et en fait, ça s'appelle Drink Champs parce qu'ils sont fiers de picoler. Et en gros, il y a de l'alcool. Et à un moment, il y a le moment que tout le monde attend qui s'appelle Quick Time with Slam. En gros, c'est un test où il va te poser toute une série de questions. Il va te demander de choisir, en fait. Donc, si, imaginons, je te demande Benjamin Moubèche ou Antoine Pimel. Et donc, si tu réponds pas à l'un ou l'autre, donc si tu dis bah, les deux ou aucun des deux, tu dois boire. Donc, c'est un jeu à boire.
Ça finit très mal.
Exactement. Donc, en fait, c'est très bien pensé parce qu'en fait, toutes les questions un petit peu touchy et les gardes pour après ce petit jeu, une fois que les langues se sont déliées, etc. Mais bon, c'est assez marrant. C'est un peu long parfois, mais voilà, c'est un des podcasts que j'aime
bien
écouter.
Moi, j'aime bien les podcasts longs. Je les écoute sur plusieurs jours. Donc, je suis assez. Ouais, je sais qu'on est dans une époque d'immédiateté et de format court, mais j'aime bien les trucs longs encore. Voilà, c'était la dernière question de cette semaine. Merci encore à tout le monde d'avoir envoyé autant de questions. On n'a pas tout lu, évidemment, mais de mots chaleureux, encourageants, sympathiques. N'hésitez pas à continuer de nous en envoyer. Quand Antoine sera de retour, on refera des quiz. Vous inquiétez pas, je sais que vous aimez bien les quiz.
Ouais.
Quand Théo lit vos questions, Théo pourra participer à un quiz aussi, d'ailleurs, parce que...
Non, je préfère lire les questions, moi j'aime bien ça. Et donner les bons points.
Mais ouais, merci encore pour tout, continuez de nous en envoyer. C'est vrai que cette semaine, j'y pensais, mais on n'a pas fait beaucoup de relances sur le fait de nous envoyer des questions, mais n'hésitez jamais à envoyer ce qui vous passe par la tête, ou à l'exprimer d'ailleurs, comme je disais tout au début sur Basket Session, dans les toutes nouvelles sessions que vous pouvez créer sur le site. Et puis bah, d'ici là, on vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve... Bah, dimanche, demain, vous avez le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand et on se retrouve lundi pour un CQFR et revenir sur les playoffs et ces matchs du week-end. Voilà. Bonne journée à tous.
Ciao à tous.